Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Le premier podcast intime sur l'argent.
J'ai des frères et sœurs là-bas qui demandent, qui sont en demande, mais je ne peux pas aider tout le monde, parce que c'est très compliqué. Je sais que lors de mon dernier voyage, en revenant, j'ai été sollicité par mes frères et sœurs là-bas, et je ne peux pas envoyer de l'argent à tout le monde en même temps. Donc maintenant, on essaie de prioriser l'urgence, tout en sachant que voilà, des fois, il y en a qui en abusent de la gentillesse, quoi.
En ces temps où la parole xénophobe, extrémiste, raciste aussi, a tant de tribunes médiatiques et politiques, il y a des sujets plus difficiles que d'autres à aborder. Des millions de Français issus de l'immigration envoient tous les jours de l'argent à leurs familles, restées dans des pays lointains. Ils le font à bas bruit, discrètement, comme un impôt secret qu'ils payent très volontiers. Et dans la retenue et la pudeur de Cali, on sent toute la prudence de celui qui sait qu'à tout moment, on peut le juger violemment pour ce qu'il est et ce qu'il fait avec son argent. Pour une totale compréhension de l'épisode, je vous invite, si vous ne l'avez pas en tête, à regarder une carte de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau est un tout petit confetti collé au Sénégal. C'est important pour la suite. Et je profite aussi de ce mot d'introduction pour vous faire une confidence. J'espère que nous aurons l'occasion de faire d'autres entretiens pour creuser ce sujet émouvant et sociétal. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Cali. Cali, tu as 45 ans, tu travailles comme indépendant en digital marketing.
C'est ça, tout à fait, oui.
Et Cali, tu es arrivé, tu m'as dit, quand tu avais à peu près 4 ans en France, c'est ça?
C'est ça, oui.
Où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce qui faisait tes parents?
Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Pierrefitte exactement, dans le 93. J'y ai grandi, j'ai fait toute ma vie là-bas, toute ma scolarité. Et je suis parti de là-bas à 17 ans. Voilà, j'ai pris mon indépendance à 17 ans.
C'est hyper jeune.
Tout à fait, oui.
Et tes parents, ils faisaient quoi?
Alors, ma mère, elle, était dans le ménage et mon père était électricien.
T'as des frères et sœurs?
J'ai un frère et deux sœurs.
Et est-ce que vous parliez d'argent à la maison quand t'étais petit?
On n'y pensait pas. On ne pensait pas du tout. Vous savez, après, quand on est petit, c'est l'insouciance, on n'y pense pas. Donc on pense que à s'amuser, on pense que à jouer, mais on se préoccupe pas de tout ce qui est argent. C'était un petit peu difficile, mais nous on voyait pas ces difficultés parce que ma mère contribuait à ce qu'on manque de rien en fait.
Et du coup, tes parents, eux, ils étaient arrivés beaucoup plus tard en âge en France.
C'est un peu complexe moi ma situation parce qu'en fait moi je suis arrivé ici très jeune. Parce qu'en fait, je viens de la Guinée-Bissau, et en fait, je suis né à Ziguinchor.
Ziguinchor, c'est pas en Guinée-Bissau.
C'est au Sénégal. Et en fait, moi, je suis arrivé ici en France parce qu'en fait, j'avais une maladie de la peau. Et du coup, en fait, mon père m'a amené ici en France pour me soigner. Voilà. Par rapport à ça, en fait, mon père, n'ayant pas la possibilité de me garder, en fait, m'a amené chez une famille adoptive.
Donc ton papa et ta maman, c'est pas vraiment ton papa et ta maman.
Voilà, mais je les considère comme mon papa et ma maman.
D'accord. Et eux, ils étaient déjà en France.
Voilà, eux, c'est déjà en France.
Ouais, c'est très particulier. Donc il a en quelque sorte abandonné un peu son enfant pour que l'enfant survive, quoi. Et voilà. Cet enfant, c'était toi.
C'était moi, oui. Il m'a pas abandonné, mais il m'a donné à une famille pour qu'elle puisse s'occuper de moi, en fait.
Tu te souviens de ce moment-là?
Je me souviens parfaitement, oui. Je me souviens le jour de mon arrivée en France. Je me rappelle de ce que j'ai même mangé. Je me rappelle bien, c'était de la salade qui était en plat. Voilà, j'ai découvert mon père et ma mère ce jour-là, et mes frères et sœurs.
Tu es retourné en Guinée-Bissau après, pendant ton enfance?
Je suis retourné, oui, une fois. Je crois que c'était en 90 ou 97, mais je ne me rappelle plus exactement de la date.
Et donc, tu n'as pas un lien fort éventuellement avec ton papa et ta maman biologique?
J'ai moins de relations avec ma maman biologique qui se trouve en Guinée. Voilà. Mon père, je le voyais en parcimonie parce que lui travaillait et moi, en fait, j'étais chez ma famille adoptive. Et du coup, on se voyait pas souvent, mais quelques fois.
Il venait te voir?
Il vient me voir, oui.
En France?
Il vient en France.
Ton père biologique?
Mon père biologique vient en France. C'est assez, moi, ma vie est assez spéciale.
Ah oui, c'est assez spécial. Et il pouvait pas te garder?
Voilà.
Il pouvait pas te garder comme avec lui parce qu'il travaillait?
Ouais, c'est ça, oui.
Donc lui-même, il a immigré en France. Et tes parents adoptifs, ils viennent de Guinée-Bissau?
Ils viennent de Guinée-Bissau aussi, mais ils vivent ici en France.
Alors quand tu grandis, t'as l'impression que ton pays, c'est un peu aussi la Guinée-Bissau?
Alors au début, quand je suis arrivé, la Guinée-Bissau, en fait, je ne connaissais pas trop bien parce que comme t'arrives ici à 5 ans, 4-5 ans, donc t'as pas trop les souvenirs. J'ai parfois des séquences qui me reviennent, mais par rapport à ça, voilà, j'ai pas trop de souvenirs. C'est quand je suis retourné là-bas un peu plus tard que je me suis rappelé voilà, des scènes et des personnes qui vivaient là-bas et qui se sont rappelées de moi aussi, et mes frères et sœurs que j'ai aussi là-bas.
Donc t'as une sorte de double famille.
C'est ça.
T'as une famille biologique avec des gens là-bas et t'as une famille adoptive avec des gens là-bas.
C'est ça.
Et t'as 4 parents.
Voilà.
Waouh. 2 pays et 4 parents.
2 pays et 4 parents.
Alors tu te barres à 17 ans, c'est hyper jeune 17 ans, de chez tes parents, justement. C'est pour travailler?
C'était pour travailler. C'était pour travailler et c'était pour aussi aider financièrement ma mère pour pas qu'elle ait une charge en plus à...
Une bouche à nourrir.
Une bouche à nourrir.
Et comment t'as fait pour avoir des sous à 17 ans?
Alors je travaille, j'ai fait des petits boulots, hein, dans le prêt-à-porter, dans le restaurant rapide.
Et t'arrives à te payer un loyer?
Alors j'ai vécu, après, en fin de compte, je suis retourné une partie du temps avec mon père, qui habitait dans un...
Petit ton père studio, biologique pour
mon
le
père
coup.
Biologique, oui, qui habitait dans un studio à Paris. J'y suis resté un petit peu de temps là-bas. Et après, j'ai décidé de prendre mon appartement sur Paris. Premier CDI, je pense que c'était mais c'était très très jeune, je pense que c'était dans un restaurant rapide.
Genre une chaîne McDo, un truc comme ça?
Non, pas une chaîne McDo, je crois que c'était une chaîne de poulet.
Ah ouais, c'est des boulots qui sont assez durs?
Très durs, très contraignants.
Et t'étais toujours à économiser, toi?
Oui, j'économise, je compte, oui, on est obligé, je fais gaffe à mes dépenses.
Et pour trouver un appart, ça a pas été trop compliqué à Paris? C'est cher? En plus, on te demande des garanties.
Bah, quand on travaille depuis plusieurs années, bah, on a les contrats,
les feuilles de paye.
Les feuilles de paye, et bah, on a notre appartement.
T'arrives à négocier des augmentations de salaire ou ce genre de choses?
Oui, bien sûr.
Ah
parce
ouais?
Que oui, parce qu'après, comme on est un bon élément, bah, après, on se fait remarquer, voilà, on se fait augmenter. Moi, je suis une personne très sérieuse, je suis une personne très, 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 très carré en fait sur les choses et j'aime bien que ce soit bien fait et voilà, donc ça ressort sur ma personnalité, sur mon travail. Les employeurs le voient, donc ils peuvent que augmenter. Pour vouloir garder une personne un personnel compétent, bah on augmente, il faut oser.
Tu voulais faire quoi quand t'étais petit?
Je voulais être joueur professionnel de foot. J'ai touché le rêve sans y parvenir, mais j'y ai touché. J'étais en fait dans un club, on va dire pro, au Red Star. Et je me suis entraîné, j'ai joué, j'ai fait catégorie de jeunes. Et après, j'ai touché, on va dire, ce rêve en intégrant le centre de formation et en m'entraînant avec les professionnels. J'ai pas pu aboutir jusqu'au bout, mais voilà, j'ai effleuré.
C'est hyper dur, ça. À quel âge tu comprends que tu seras jamais un professionnel de foot?
Moi, c'est une scène qui m'a marqué. C'est que j'étais en concurrence avec un certain joueur et ce jour-là a eu la chance d'avoir, on va dire, cette double nationalité qui a fait que, on l'a choisi, lui, par rapport à moi, en fait.
Ah, tu penses que la double nationalité a joué?
En cette période-là, oui. en cette période-là, parce qu'en fait, il y avait un quota de joueurs de nationalité qu'il fallait dans une équipe. Donc, c'est pour ça que...
Et toi, t'as pas de double nationalité ?
À l'époque, non.
Faut la demander à 18 ans ?
C'est ça.
Et maintenant, tu as la double nationalité ?
Oui, maintenant, je suis français. J'étais sénégalais.
T'étais sénégalais ? Dans une famille de Guinéens. Mais t'étais pas encore français ?
Non.
Et maintenant, t'as la double nationalité sénégalaise et française ?
Oui.
Toujours pas Guinée-Bissau ?
Non. Mais ça, faut que je la demande.
Tu pourrais l'avoir ?
Oui, bah oui. J'ai envie de la demander.
Pour toi, c'est aussi ton pays ?
C'est mon pays.
C'est vers 16 ans que tu comprends que tu seras jamais pro de foot ?
Non, un peu plus tard. C'était vers 17 ans, 18 ans, en fait.
Ah ouais, du coup, tu te mets à bosser, quoi.
Voilà.
Tu te dis, c'est foutu.
Voilà. Parce qu'en fait, en parallèle, puisque là où je pouvais, en fait, me payer un loyer, c'est qu'en fait, je jouais au foot et que j'avais des primes par rapport à ça, donc je pouvais me payer aussi un loyer, je pouvais aussi...
Ah, tu gagnais de l'argent comme apprenti footballeur ?
Ouais. Alors, c'était des primes de match. Hein. C'était pas mirobolant, mais c'était des primes de match. Je pense qu'à l'époque, c'était, si je me souviens, 80 euros. Ouais, ça pouvait être 50 euros, 80 euros, même, non, un peu plus, par match.
Donc, quelques dizaines d'euros qui viennent, malgré tout...
Arrondir les fins de mois.
Ouais, pas mal. Et après, quand tu comprends que tu vas pas être professionnel, tu arrêtes tout ce cursus-là ?
Non, je continue toujours le foot, mais dans un niveau inférieur.
Et là, t'as plus de primes de match ?
Si.
Ah, donc t'as toujours eu un petit bonus, en quelque sorte ? Et tu dois composer ton agenda entre le boulot la semaine ou le week-end et les matchs.
Et le foot, ouais.
Et le foot, avec les entraînements, avec le jeu.
C'est ça.
Et t'avais pas une minute à toi.
Non, mais j'aime bien. J'aimais bien parce que je suis très actif.
T'as continué ça longtemps ?
Bah, je continue toujours. Je continue toujours à jouer. Je continue pour le plaisir, pour le maintien du corps. Mais je coachais un moment et j'ai arrêté. Maintenant, je suis plutôt dans l'accompagnement, en fait.
Mais alors, finalement, tu n'es pas devenu Kylian Mbappé ?
Non. C'était le destin, c'était le choix. Surtout, il faut vite comprendre. C'est surtout ça, en fait. Il faut vite comprendre que tu n'y arriveras pas. Donc, il faut une solution alternative et le faire vite. La vie, elle passe et les trains passent et ils ne t'attendent pas, en fait.
Est-ce que tu voulais devenir riche, du coup ?
Pas riche. En fait, il ne faut pas croire que le foot, c'est que de l'argent. Moi, le foot, c'est vraiment par rapport à c'est une passion. Donc, l'argent, moi, je ne pensais pas à l'argent. C'était juste le fait de réussir. Une carrière. C'est vrai que l'argent, ça aide. Mais moi, c'était vraiment le rêve de réussir une carrière. C'est tout. Mais j'ai jamais pensé à l'argent en disant oui, je veux des milliers, des cents. Non.
Alors, du coup, tu te retrouves à trimer quand même pas mal. Donc, le sport, plaisir. Mais le boulot, restauration rapide, bah, boulot, quoi.
Mais après, je me suis vite développé. J'ai fait des formations. Voilà. Après, je suis passé en technicien informatique. Dans l'informatique, voilà, j'ai eu mes diplômes.
Donc, tu as fait une formation en tant qu'adulte ?
Ah, avec des bourses. La région, les départements, voilà, ils finançaient ça, en fait.
Et donc, tu arrivais à payer ton logement, ta bouffe, reprendre des études et arrêter de travailler ?
Non, je continue toujours à travailler, parce que c'était pas possible d'arrêter comme ça. Après, c'est dur. Je me suis très peu arrêté de travailler. Hein. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours été actif. L'informatique, c'est quand même un métier où il y a pas mal de boulot. Ça me manque pas parce que dans l'informatique, c'est vaste. Alors moi, c'était dans le réseau.
Administrateur réseau.
Voilà, c'était administrateur réseau. Après, je travaillais dans une société informatique. En fait, on avait un gros contrat. On travaillait avec un magasin. En fait, on était en maintenance informatique, réseau de leur propre magasin.
C'est quoi ? On est sur 1800 euros ?
Non, un peu plus.
2000 carrément ?
Un peu plus, ouais.
2500 ?
Non, c'était...
C'est bien.
Ouais,
hein.
C'est à peu près, ouais.
T'as des avantages d'entreprise ?
Oui, il y avait la voiture, les tickets restaurants.
Et est-ce que, déjà, à ce moment-là, t'as l'idée d'envoyer de l'argent à de la famille au pays ?
Bah, je le faisais même avant.
Ah ouais ?
Bah oui, je le faisais même...
Dès ton premier salaire ?
Ouais, ben avant même. C'est que... On envoyait de l'argent quand on pouvait envoyer, même à le plus jeune âge. Hein. Moi, je crois que j'ai commencé à envoyer quand j'avais... même à partir de 17 ans, 18 ans, je commençais déjà à envoyer. Hein.
Comment ça se passe ? Pourquoi tu te dis tout de suite qu'il faut envoyer ?
J'envoie à la famille là-bas, à ma mère qui est là-bas.
Ta mère biologique, pour le coup ? Et elle travaille pas ?
Non. Parce que là-bas, en Guinée-Bissau, c'est plutôt l'agriculture qui fait travailler. Il y a une saison où on travaille, et après il y a la saison où on se repose, il y a la saison de pluie où on travaille, et après la saison de pluie où on se repose un peu plus, là-bas en Guinée.
Mais c'est elle qui t'a demandé, ou c'est toi qui as décidé de faire ça ?
Non, c'est moi. Ou sinon, c'était elle qui demandait aussi. Après, on se devait d'aider parce qu'on sait très bien que la vie là-bas, elle n'est pas...
La Guinée-Bissau, c'est un pays qui est très peu d'habitants, où il y a le franc CFA, comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, et où la vie est très peu chère, mais où les revenus sont extrêmement bas. C'est ça, à peu près.
C'est ça, tout à fait.
Donc évidemment, quand on voit des euros, bah, très vite, ça peut représenter des sommes conséquentes là-bas, quoi.
Oui.
Et comment tu décides quelle somme tu envoies ?
Bah, j'envoie par rapport à leurs besoins. Parce que la plupart du temps, c'est plutôt pour acheter la nourriture. Donc, on sait qu'un sac de riz, c'est à peu près 20 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA.
Ça fait combien d'euros ? 10 000 francs CFA, ça fait combien d'euros ?
C'est 15 euros.
10 000 CFA, c'est 15 euros ?
Oui. C'est 45 euros pour un sac de riz là-bas.
Et toi, tu gagnais pas donc des milliers et des cents, t'étais au SMIC, comme on disait les premières années ?
Ouais.
Donc tu peux pas envoyer non plus des tonnes...
Non, après c'était...
Au début t'habites chez ton père, mais après tu prends ton appartement, t'as des frais comme tout le monde, et même si tu bosses tout le temps, faut quand même que tu vives quoi.
Après on envoie ce qu'on peut envoyer. Après on envoie bah, des 20 euros, des 30 euros, si on peut plus après on peut plus, mais sinon c'est... Non, c'est pas par mois, quand on a la possibilité.
Y a pas d'agenda ?
Non, y a pas d'agenda.
Ça peut être une fois, puis plus du tout pendant 6 mois, puis après pendant une...
Voilà.
Puis pendant deux semaines.
Ça dépend par rapport à la demande, ou sinon par rapport aux besoins de là-bas. Mais sinon, c'est pas. On ne se fixe pas un agenda, non. Sinon, ce serait trop compliqué.
C'est pas un loyer, quoi.
Non, c'est pas un loyer, non. Parce que nous, c'est ce qu'on veut éviter, les gens qui vivent ici, les gens de, les gens de France. En fait, on veut éviter en fait, ça, en fait. On veut éviter qu'ils soient dépendants de nous, en fait. On veut leur donner, on veut leur donner les outils pour qu'ils puissent pêcher, pas pour qu'ils puissent manger directement le poisson. Parce que sinon, c'est trop facile, en fait.
Est-ce que c'est gênant, tu crois, pour eux de demander ?
Non, parce qu'il y en a qui abusent.
C'est pas assez gênant, tu dirais ?
Non, c'est pas gênant, parce qu'il y en a certains, ils sont vraiment dans la nécessité, dans l'urgence, dans le besoin, et d'autres qui en abusent. Parce qu'ils savent que c'est la famille, il faut leur demander. Mais il y en a, en fait, ils en font un business, carrément.
Quand tu dis il y en a, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas que ta mère, il y a d'autres gens qui profitent de ta générosité.
Oui, parce que j'ai des frères et sœurs là-bas qui demandent, qui sont en demande, mais je ne peux pas aider tout le monde, parce que c'est très compliqué. Je sais que lors de mon dernier voyage, en revenant, j'ai été sollicité par mes frères et sœurs là-bas, et je ne peux pas envoyer de l'argent à tout le monde en même temps, c'est très compliqué. Donc maintenant, on essaie de prioriser l'urgence, sachant que voilà, des fois, il y en a qui en abusent de la gentillesse. Quoi.
T'as beaucoup de frères et sœurs ?
Là-bas, oui.
Et ça s'arrête aux frères et sœurs ? Il n'y a pas les cousins, cousines ou des oncles ou, parce que...
Non, vraiment frères et sœurs. Mais si, après, il y en a qui demandent. Mais comme je dis, on ne peut pas donner à tout le monde.
Comment tu fais pour donner ? Tu passes par Western Union ?
Western Union.
Ouais.
Y a ou sinon Monogram, mais sinon c'est la plupart du temps sur Western Union.
Il y a un pourcentage qui est prélevé dans la transaction ?
3%, je sais plus. Il n'y a pas beaucoup de frais par rapport à l'application mobile.
Et donc tu passes directement par ton téléphone ?
Oui.
Et après, là-bas, ils se débrouillent pour le récupérer.
C'est ça.
Ouais,
ils ont un point en retrait et ils les récupèrent là-bas directement.
Et tes parents adoptifs, eux aussi, ils avaient déjà cette démarche ?
Bah oui.
C'est un truc que tu as vu depuis ta jeunesse.
Ça a toujours été. Ils le font tout, même là, ils l'ont fait là. Ils le font là. J'ai donné même une cotisation à ma mère pour qu'elle envoie à sa mère. C'est normal. On se doit d'aider.
Donc c'est un truc que tu as vu ?
Depuis toujours. C'est pas que nous. Il y a d'autres aussi pays qui le font aussi.
Bah ouais, il y a plein de gens qui le font, quoi.
Il y a plein de gens qui le font. C'est normal d'aider les gens là-bas. Il y a des amis maliens et des amis congolais qui le font aussi. Et c'est normal pour nous, en fait, de le faire.
Et tu parles des montants ?
Les montants varient. Les montants varient.
Donc, quand par exemple, tu es rentré dans cette boîte qui avait l'air assez confortable, où tu étais administrateur réseau, ton salaire, il augmente. Et du coup, tu donnes plus ?
Non, parce que les frais augmentent, aussi
ici
de mon côté.
Ouais.
Parce que moi aussi, j'ai une famille ici.
Tu rencontres une nana, tu commences à faire des enfants.
Oui, c'est ça. C'est assez compliqué, quoi, de contribuer... aussi à leur évolution. Parce que de mon côté aussi, voilà, j'ai tout ça aussi.
Est-ce que tu as une idée de combien ça te coûte par an, là aujourd'hui par exemple ?
En toute honnêteté, je ne calcule pas du tout. Je donne quand je dois donner, quand je peux.
C'est au feeling.
Voilà.
Et ça te fait plaisir de le faire ?
Bien sûr. C'est juste que je dois aider, et c'est normal d'aider, pour ceux qui en valent la peine et pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais pour ceux qui demandent...
On sent que parfois, t'as l'impression qu'il y en a qui essaient de te gratter. Hein.
Non, c'est pas une impression, c'est que c'est le cas. Il y en a qui essaient de vouloir gratter, et je le sens, et voilà, moi, ça plaît pas.
C'est quoi, par exemple, quelqu'un qui veut te gratter ?
En fait, là-bas, c'est vrai qu'ils sont dans le besoin, mais ils ne manquent pas aussi de... Parce que là-bas, les fruits, ils poussent dans les arbres. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'agriculture, de riz, de...
Ceux dont tu penses qu'ils te grattent, tu penses que c'est pour des luxes ?
Oui, c'est pour vraiment, en fait, on va dire... pas frime, mais si, on va dire, parce que... Des fois, il y en a qui s'abusent parce qu'en fait, ils ont pas besoin, mais c'est juste pour vous dire que j'ai de l'argent et pour... voilà. Je suis sollicité. Oui, je suis très sollicité. Et je dis non. Bien sûr que je dis non. Heureusement que je dis non, parce que si je disais non...
Si je disais oui tout le temps... T'aurais plus un rond ?
J'aurais plus, bah oui. Parce que sinon, c'est tous les mois, ils te sollicitent. Mais heureusement, je dis non.
Et les gens réessayent éventuellement, mais après que t'es dit non ?
Ils réessayent, ou sinon, ils sortent des mensonges, ou... des mythos en disant oui, j'ai ma fille qui est malade, j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de ça. Et souvent, des fois, on se fait avoir au début.
Bah, c'est pas facile parce que c'est hyper culpabilisant. Si c'est vrai, t'es en train de laisser une petite fille malade.
Des fois, on sait que des fois c'est vrai, des fois c'est faux parce qu'on se renseigne aussi. On appelle les personnes à côté pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai ou pas avant d'envoyer. Ah, c'est toute une organisation.
Il y a une enquête à mener.
Il y a une enquête à mener.
Et après, ça t'arrive de confronter les gens en disant tu, dis donc, j'ai appelé le cousin machin, ta fille, elle est pas du tout malade.
Pas de questions musclées, mais de le faire comprendre que je me suis renseigné que, en fait, ta situation n'est pas vraie. Elle est fausse. Et du coup, voilà.
Mais on reste amis.
On reste amis, bien sûr. Pourquoi s'énerver ?
C'est comme si t'avais ta vie normale de français lambda. T'as des enfants, toi ?
Trois.
Qui s'occupe de ses enfants, qui a son boulot. Et puis, à côté de ça, tu as une sorte de vie parallèle où tu subviens aux besoins de gens dans un pays très lointain.
C'est ça. C'est pas évident. C'est que, après, c'est... Comme je l'ai dit, en fait, on se doit d'aider. Ça, c'est normal. Franchement, comme je l'ai dit, moi, je suis parti là-bas, voilà, j'ai pas connu mon pays, mais là, voilà, j'essaie de me remettre en connexion avec mon pays. Et il faut aider.
C'est ma nature. Tu te remettre en connexion avec ton pays, tu dis ? Parce que tu n'y es pas allé beaucoup ?
J'ai pas été beaucoup de fois. Mais je suis retourné en 2016 avec ma famille. Là, récemment, cette année, en avril. Je suis retourné 4 fois, en fait, là-bas au pays.
C'est pas beaucoup, hein ? C'est pour toute ta vie ?
Ouais.
Donc, tu files pas mal d'argent, du coup, au fil des ans, à des gens que tu as très peu vus.
Oui, que j'ai très peu vu, mais que je connais aussi, parce que c'est ma famille.
Et ça peut arriver qu'ils viennent en France ?
Non, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de venir en France. Un billet, c'est quand même onéreux.
Mais quand tu pars avec tous tes enfants, etc., et que tu vas là-bas, tu dois en avoir, il faut 4 billets d'avion ?
C'est des économies d'un an.
Ah ouais, t'économises un an pour pouvoir faire...
Ma femme et moi, on économise un an pour... Quand nous sommes rentrés au pays, nous avons économisé pendant un an et nous sommes partis là-bas.
Et quand tu vas sur place, est-ce que tu as des dépenses liées justement au fait de donner de l'argent aux gens ou de leur faire des cadeaux ou...
Bah surtout, en fait, on prépare une valise où on sait que ces affaires-là resteront là-bas.
C'est quel genre d'affaires ?
Des affaires qu'on utilise très rarement ou peu ou pas du tout.
Que vous avez déjà ? Des vêtements, des choses comme ça ?
Voilà, tout à fait. Des vêtements, des chaussures. C'est quand même cher les vêtements, donc... Ils font avec ce qu'ils ont. Donc, nous, après, si on peut les aider, on aide.
Et après, tu donnes pas du cash sur place ? Ou on t'en demande pas ?
Non. C'est avant de partir, avant de partir, j'essaie de faire en sorte de donner aux personnes ou à la mère pour qu'elle puisse gérer ça par rapport à ses besoins futurs.
Et t'es accueilli, toi, là-bas ?
Oui.
Logé, nourri ?
Oui. J'ai une maison là-bas.
Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression que tu te prives un peu pour ta famille ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des dépenses que tu fais pas pour toi. Un ciné, un resto, des vacances avec les gosses ou un truc. Parce que finalement, t'as moins d'argent, puisqu'il faut que tu en envoies régulièrement et que tu prévois ces voyages.
Oui, après, je leur fais comprendre aussi que j'ai pas les moyens de leur envoyer parce que j'ai ça comme dépense. Il faut leur faire comprendre aussi que aussi ici on a des dépenses. En fait, eux ils pensent que ici nous avons la belle vie, ils pensent que nous avons tout ce qu'il faut. Et en fin de compte, c'est tout le contraire. On leur dit bien. Moi, en tout cas, je leur explique mon fonctionnement de vie et je leur dis que voilà, ici il y a des dépenses. J'ai mon loyer à payer, j'ai des factures à payer, j'ai mon assurance. Je leur dis bien tout ça pour qu'ils puissent comprendre en fait.
Et ça passe comme message ?
Oui, certaines personnes entendent. D'autres entendent, mais ne veulent pas comprendre.
Ils ont quand même l'impression que tu vis un peu une vie luxueuse.
Voilà. Non, tout au contraire. C'est...
Et ta femme, elle travaille ?
Ma femme, elle travaille, oui.
Elle envoie aussi de l'argent ?
Elle envoie aussi de l'argent, de son côté aussi.
Est-ce que vous en parlez ?
Oui, on en parle.
Est-ce que des fois, elle te demande ton avis ou tu lui demandes son avis pour telle ou telle somme à envoyer ? Genre, est-ce que j'envoie là ou est-ce qu'on peut...
Non, après, c'est son choix d'envoyer ou pas. Mais
c'est chacun prend voilà. Sa décision.
Mais sinon, on en discute, on en parle, bien sûr. On leur dit des fois qu'ils exagèrent par rapport à certaines situations et qu'on sait que des fois que qu'il y a des mensonges. On sait que des fois c'est voilà.
Mais c'est chacun fait de son côté. Toi, tu parlerais pas à ses frères et sœurs pour leur dire là maintenant on peut pas envoyer ou
non.
Chacun gère sa famille.
Chacun gère sa famille. Non, je permettrais pas de m'immiscer dans sa famille, dans ses choix. Non.
Et tu sais combien elle donne ou pas ? Et quand est-ce qu'elle donne ? Ou est-ce que c'est chacun pareil, son jardin secret ?
Non, chacun gère ce que doit gérer. Moi, en tout cas, je sais que je ne me permettrai pas de rentrer dans sa vie et de gérer sa vie, non. C'est chacun décide ce qu'il doit faire.
Alors, elle vient de quel pays, ton épouse ?
Elle est née en France, mais on a de la même origine aussi. Elle est sénégalaise aussi comme moi.
Mais vous devez claquer des sommes complètement folles en billets d'avion.
Non, mais non, là, on l'a fait qu'une fois avec nos enfants. En fait, on a fait un road trip cette année-là. On a fait France, Dakar, Sénégal, Guinée, et après on a fait le retour. Voilà.
Ça t'a plu ?
Extrêmement. C'est,
combien de temps ?
C'était magnifique. On est resté 3 semaines pour le tout, et franchement, c'était beau.
T'as eu envie de peut-être vivre là-bas ?
Ouais, j'ai envie de vivre là-bas, j'ai envie de créer quelque chose. Je voudrais investir là-bas.
C'est facile quand on est grandi en France de...
En fait, c'est pas facile parce que ce qui manque là-bas, c'est la confiance. C'est la confiance des personnes qui sont là-bas parce que je sais que j'ai entendu dire et de pas mal de personnes qu'ils ont commencé à développer des choses là-bas, mais
les business.
Ouais, les business, mais les personnes sur place, en fait,
sont parties avec la thune.
Voilà. Et du coup, c'est vraiment ça qui...
C'est vachement dur, t'es loin, et le pays il est super pauvre, et tout le monde a besoin d'argent.
Tout le monde a besoin d'argent. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, faut vraiment mettre des personnes de confiance là-bas, et pouvoir commencer des choses là-bas.
Tu mets de côté, toi, dans l'idée, par exemple, de retourner un jour là-bas ?
Bah moi, je mets toujours de côté, moi. Non, je mets, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Si on met pas de côté, un pépin, une galère arrive, qu'il n'y a pas de sous à côté... C'est très compliqué. Hein. Ouais. Si on n'épargne pas, voilà.
Oui, après, des fois, tu peux pas forcément. Hein. Il y a 3 enfants qui réclament des trucs.
Non, mais après, on épargne, même pour les enfants, on épargne aussi. Hein. Pour plus tard, pour leur permis, on épargne. Moi, j'épargne de mon côté, ma femme épargne de son côté, on épargne aussi pour les enfants.
Tu crois que tes enfants, ils feront la même chose, ils enverront de l'argent au pays ? Parce que eux, pour le coup, ils en sont la 3e génération, quoi.
Je pense que oui, parce que nous, on est en train de sensibiliser mes enfants, le fait de les faire comprendre que de ne pas gâcher, de pas comment dire tout ce qui est... parce que moi je leur explique bien que là-bas ils ont des problèmes de pour se restaurer, ils ont des problèmes pour se vêtir, et je leur dis bien que voilà, vous avez la chance d'avoir tout ce que vous avez ici, alors ne gâchez pas.
Ils ont quel âge ?
Alors, mon plus grand a 15 ans, le deuxième a 12 ans et le troisième a 6 ans.
Il est petit encore pour comprendre tout ça, peut-être ?
Non, il n'y a pas d'âge pour expliquer les choses.
Quand tu décris ton enfance, tu dis « j'étais innocent, j'étais épargné par les questions d'argent ». Et en même temps, apparemment, t'en parles de façon très précise au tien d'enfant.
Oui, parce qu'en fait, moi, on ne m'a pas aussi expliqué comment gérer tout ça. Parce que moi, j'ai vu, j'ai compris...
Moi, par toi-même.
Voilà, par moi-même. Donc, j'ai eu cette expérience. Tandis que maintenant, par rapport à cette expérience, je sais en fait quel message passer à mes enfants.
À tes gosses.
Bah oui.
Et bien après, quand ils vont là-bas, puisqu'ils sont allés là-bas, est-ce que la différence de richesse, elle se voit?
Bien sûr qu'ils le voient. Ouais. Ils le voient par rapport, comme j'explique toujours, par leur tenue vestimentaire, par rapport au fait de ce qu'ils consomment tous les jours, par rapport à l'alimentaire, c'est pas varié. Du riz, du poisson.
Est-ce qu'on parle plus d'argent là-bas qu'ici?
On essaie de pas en parler, mais ça se sent juste comme je disais, en tenue vestimentaire, le comportement. Ouais. Même si on veut pas en parler, mais ça se voit, ça se ressent en fait.
Mmh.
On sait que la personne. Bah, nous, quand on va là-bas, on sait qu'on ne vit pas là-bas.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas la même peau, on n'a pas le même teint, on n'a pas le. Voilà, on sent que la personne n'est pas d'ici.
C'est marrant que t'aies le fantasme de retourner là-bas, parce que t'as pris des habitudes, effectivement, même de consommation, d'ici, forcément. Est-ce que vraiment, au fond de toi-même, tu penses que tu serais capable de vivre à l'année en Guinée-Bissau, par exemple?
Franchement, oui. Faut pas croire que... C'est vrai que, voilà, le pays, il faut le développer. Et c'est nous, les enfants qui sont partis là-bas, ne reviennent pas pour développer le pays, ça va être très compliqué. Donc oui, moi, je veux vraiment développer le pays. Après, voilà, pour y vivre, il faut un business. Parce qu'on ne peut pas, après, y vivre comme ça, sans rentrer d'argent, sans... Voilà. Il faut une source de revenus. Et je pense que, voilà, développer le pays pour... déjà, la source de revenus pour les pays, les locaux, c'est très important, pour qu'eux aussi puissent, comme j'ai toujours dit, apprendre à pêcher, pas manger, mais apprendre à pêcher, c'est voilà, il faut développer.
Et est-ce que tu files de l'argent à des ONG?
Oui, à des associations, oui. En fait, je suis dans une association aussi. C'est une association de mon village, voilà. Donc en fait, que ce soit dans ma communauté, on est plusieurs villages à avoir des associations.
Donc il y a une communauté sénégalaise qui est implantée en France et qui a fait une association pour...
Qui ont des associations et de chaque village. Et à partir de là, en fait, bah, avec leur association, ils contribuent à développer le pays là-bas aussi, à envoyer de l'argent sur des projets.
Ah, mais t'es quand même très sollicité, hein. Mine de rien, il y a quand même... Si on regarde depuis le début que t'as commencé à travailler, tu te rends compte de toute la thune qui est passée là-dedans?
Oui, oui.
C'est des milliers d'euros.
C'est des milliers.
Et c'est une association que t'as aidé à fonder?
Non, bah non, en fait,
elle était fondée au départ.
Elle a été fondée par nos parents.
Ah bon?
Et nous, on a repris ça.
Ah bon?
Ouais.
Ah oui, donc vraiment, il y a un truc de transmission et de filiation qui est ultra fort. T'as pas le choix, en fait. Et tes enfants auront
si,
pas le choix.
T'as le choix, mais oui, il y a une filiation entre nos parents, nos grands-parents et nous et nos enfants qui viennent aussi.
Est-ce que tu connais des gens qui refusent cet héritage en quelque sorte? Ou qui disent non, allez, moi ça va, je vais pas filer de l'argent, je connais pas ces gens, je suis français.
Même s'ils le veulent, je pense pas qu'ils pourront. Parce que voilà, c'est. Je connais pas, mais.
Ça te paraît impossible?
Pour moi, ça me paraît impossible parce que on a cette culture d'aide et d'échange et de partage. Et je pense que ouais, dans la communauté, ce sera très compliqué. Même si c'est vrai qu'on est très sollicité, mais on continuera en fait à aider. Je pense qu'on continuera à aider.
C'est impossible de dire non tout le temps en fait. Tu t'exclus vraiment de ta communauté si tu refuses.
Non. Il y en a. Je pense qu'il y en a qui participent pas. Mais moi, après de mon côté, même si je suis sollicité, je continuerai toujours à aider quoi.
C'est un truc aussi qui est fou, quoi. Dès que tu prends l'avion pour retourner dans ta famille, tu deviens un bourgeois. Alors qu'ici, t'es en classe moyenne.
Oui, mais après, même si on est le roi du pétrole, soi-disant, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le roi du pétrole, parce que... Mais
Oui, parce que toi, tu sais que t'es pas le roi du pétrole, parce qu'après, tu reprends l'avion et tu reviens ici. Mais dans le regard des autres...
Oui, dans le regard des autres, là-bas, oui.
Tu fais attention, toi, à pas avoir trop de signes extérieurs de richesse ou à pas trop te la péter quand
oui.
Tu vas là-bas.
Je me fonds dans la masse.
Ah, tu surveilles, tu fais gaffe.
Bah oui. Même si...
Tu mets pas de trucs trop clinquants
Non.
T'as pas l'air d'être accro
non,
aux fringues de marque. Mais...
Non, je... Si, c'est même si j'ai des fringues de marque, mais ça se voit pas.
Discret.
Discret. J'aime être... Voilà, ça...
C'est quoi tes luxes à toi? Les trucs vraiment qui te font plaisir?
Moi, je suis très geek. Ouais, j'aime tout ce qui est nouvelle technologie. PC... Voilà, les derniers appareils photo.
Appareils photo? Ah ouais.
Parce que je suis photographe vidéaste, c'est pour ça aussi. Non, parce que c'est pour le métier aussi, c'est pour le moins profession. Mais c'est vrai que voilà, je suis très accro aux technologies. Ça.
Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans la dèche?
Alors, est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'être dans... Non, franchement, non, je crois pas, non. Non, j'ai quand même bien géré. Non, je te pensais pas. Franchement, c'était.
C'est-à-dire que t'es en train de penser à un moment là, je vois dans tes yeux. Que
non, je suis en train de me ressasser. Est-ce que j'ai eu des moments de galère en fait? C'est pour ça.
Ouais.
Pour répondre à la question. Et entre toute ma vie, non, j'ai quand même bien géré ma. J'ai quand même bien géré ma situation.
Parce qu'en même temps, toi, si tu te retrouves dans la galère, personne peut t'aider.
Ah non. C'est pour ça qu'il faut que je sois bien.
Toi, t'as pas de backup.
Non, j'ai pas de backup.
T'as les autres, mais.
J'ai pas de backup. Si, j'ai un backup, c'est que j'ai mes épargnes.
Ouais, mais c'est toi voilà, ta pomme, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est moi et ma pomme.
Ouais. Du coup, idéalement, pour te sentir bien, il te faut combien d'épargne pour que tu puisses dormir la nuit et te dire, ça va, là, je crains rien.
Alors là, franchement, faudrait au moins, on va dire, un an de.
Un an de salaire.
Un an de salaire, pour être bien.
On est sur 40 000 balles, tu serais d'épargne, tu serais bien.
Ouais.
Là, tu serais vraiment, tu te sentirais à l'aise, tu te sentirais rassuré.
Ouais, je pense que ouais, c'est ça, c'est qu'un an de salaire et on sait qu'en 6 mois, on peut quand même relever la tête.
Pour toi, c'est l'épargne idéale.
Ouais.
Bon, manifestement, vu ton regard un petit peu inquiet, tu n'y es pas encore.
Non, mais j'épargne, oui, mais je suis pas encore arrivé.
T'es pas encore à ça, ouais.
Non, je suis pas encore à ça.
Et t'achèteras pas en France. Si tu peux acheter, t'achèteras là-bas.
Ouais.
En immobilier.
Ouais.
Est-ce que tu crois que ça veut dire que tu te sens plus de là-bas que d'ici?
Non. Je me sens 100% là-bas comme 100% ici.
Est-ce que c'est possible de s'enrichir en Guinée-Bissau, dans ce pays qui est si pauvre?
Bah, moi,
est-ce qu'on peut faire fortune?
Pas fortune, mais on peut travailler et être autonome en Guinée, oui. Si on le veut, si on se lève comme en France, si on se lève, on va chercher le boulot. Si on se lève, on se donne les moyens d'y arriver, oui.
Ah, tu crois vachement au mérite, toi.
Ah oui. Moi, je dis toujours que pour moi, quand on veut, on peut. Si on veut pas, c'est que on n'a pas mis les moyens pour y arriver. Moi, c'est toujours comme ça. Pour faire quelque chose, il faut se lever, faire des actions. S'il n'y a pas d'action, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, réflexion. Tu n'y as pas pensé pour pouvoir faire sortir, pour sortir de ce que tu voulais, quoi.
Tu penses que si quelqu'un se retrouve dans la galère, c'est un peu de sa faute?
Pour moi, un petit peu, oui.
Alors que tu aides des gens.
Oui, mais je me dis toujours que c'est ta faute parce que ce soit en France ou n'importe où, moi, pour moi, en France, il y a toutes les formations qu'on peut pour y arriver. Il y a toutes les instituts pour y arriver. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler.
T'as déjà été au chômage?
Oui, j'ai déjà été au chômage, mais très peu de temps.
T'as tout de suite retrouvé du boulot?
Tout de suite retrouvé du boulot. C'est, franchement, j'ai très peu été en inactivité. J'ai toujours travaillé.
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Bah oui, même avec un ou quelques euros par mois, afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt.